fait mal. Ça.
Salut Louis, comment vas-tu?
Je vais exceptionnellement bien. Il fait beau ici, beau soleil. Le printemps est à nos portes. Bring it on.
Mais malheureusement, le golf risque d'arriver un peu trop vite pour le Canadien.
Seigneur. Écoute, c'est pas fini, là?
Non.
Mais mettons qu'il y a un clou de plus dans ton... Là. Malheureusement, c'est un match. Écoute, les derniers matchs, tu ne pouvais pas les perdre. Le match de samedi, c'est pas comme si le Canadien joue mal. C'est pas comme si le Canadien n'a pas essayé. Quand tu génères 48 lancers, c'est parce que clairement, t'as eu
ouais.
beaucoup de chance. Tu ouais. contrôlais la rondelle.
Exact.
Tu étais en possession de la rondelle. Tu étais en mode attaque. Mais tu avais Corey Crawford qui... lui, à chaque fois qu'il s'amène à Montréal, c'est un mur, c'est un mur de briques, il n'y a rien qui rentre. C'était très clairement le cas samedi. Et là, c'est sûr que ça vient de faire énormément mal. Et ce qui fait encore plus mal, si c'était pas assez, hier, je suis en train de regarder les différents matchs de hockey. Je me prépare à me coucher, c'est 1-0 les Pingouins. Je me dis, bon, parfait. Les Flyers, c'est réglé.
Au moins
et
ça,
là,
ouais.
je dis, je vais revérifier les pointages juste après ma douche. Je vais aller revérifier les petits pointages pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest. C'est 2-1 victoire. Je me dis, pardon, qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais.
J'ai parlé avec Jacques Martin aujourd'hui. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, écoutez, il disait, pourtant, on a dominé en deuxième, mais c'est ça le hockey. Et c'est ça qui fait que la course aux séries est si extraordinaire présentement.
Puis, en même temps, évidemment, les Pingouins étaient privés de Malkin et de Letang pour le match d'hier. Mais, puis les Flyers ont marqué dans les dernières secondes de la troisième et dans les dernières secondes de la prolongation. Mais peut-être que les Flyers ont réussi hier où le Canadien a échoué depuis une semaine ou 10 jours, c'est-à-dire gagner le match qui fait en sorte que si tu le perds, tu vas manquer les séries.
Oui, exactement. Et c'est probablement ça demain. Demain, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est Canadiens Flyers à Philadelphie, au Wells Fargo Center.
Ouais.
C'est un match. Les Flyers perdent, c'est terminé selon moi. Le Canadien perd, c'est probablement la même chose.
Ouais.
C'est peut-être déjà trop tard pour Philadelphie de toute façon. Pour le Canadien de Montréal, ben là, il y a vraiment, vraiment, vraiment plus de marge de manœuvre. Mais c'est vrai, t'as raison. Je veux dire, c'était... Et ça démontrait à quel point cette équipe-là, et comme je viens de te le mentionner, j'ai parlé avec Jacques Martin aujourd'hui, on s'est parlé rapidement, puis il me disait, c'est dommage un peu ce qui s'est passé cette année avec Ron Hextall, parce qu'il dit, il a fait beaucoup de bonnes choses là-bas. Il dit, on peut voir que cette équipe-là, c'est une très, très bonne équipe. Ils ont des bons jeunes joueurs, ils ont vraiment un avenir extrêmement, extrêmement prometteur. Et puis quand on regarde un peu le match du Canadien, j'étais avec mes collègues Michel Bergeron et puis Dave Morissette pendant l'avant-match.
Samedi,
et puis il y avait une entrevue, Renaud Lavoie réalisait une entrevue avec Duncan Keith. Et puis je me suis retourné pendant qu'on écoutait l'entrevue, puis je disais, ce gars-là, y a-tu là un gars qui est prêt pour jouer un match des séries? C'était un peu ça. Les Blackhawks de Chicago ont un noyau de jeunes joueurs vraiment impressionnants, mais il y a encore des kingpins, il y a encore des vétérans qui font la différence. Et quand tu joues un match comme samedi, tu te dis, si on l'échappe, c'est peut-être terminé.
C'est ça.
Ils devaient absolument gagner. C'était les Jonathan Taves, c'était les Duncan Keith, c'était ces joueurs-là qui disaient, les gars, dans des matchs comme ceci, voici comment on se comporte.
Mais tu sais, Louis, tu fais référence à Duncan Keith, puis tu fais référence au noyau dur des Blackhawks, qui a quand même remporté 3 Coupes Stanley sur une période de 6 ans.
Ouais.
Et souviens-toi, quand ils ont gagné la dernière en 2015, on a commencé à parler de dynastie parce que dans une Ligue nationale à 30 équipes à l'époque, à 31 maintenant, puis à 32 dans 2 ans, ben de gagner 3 Coupes Stanley en 6 ans, c'était exceptionnel. Et les Blackhawks l'ont fait. Tu peux pas gagner la Coupe parce que ton père a de l'argent. Tu peux pas gagner la coupe en allant l'acheter au Walmart. Mais quand tu la gagnes 3 fois en 6 ans, c'est plus qu'impressionnant.
Ça l'est extrêmement. Puis moi, ce que je trouve encore pas plus impressionnant que ce que tu viens de dire, parce que c'est une équipe originale, c'est une équipe qui a fait les choses de la bonne façon. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus actuellement, c'est pas les vétérans que je t'ai mentionnés, c'est de voir que cette équipe-là qui... Il y a 2 mois, quand tu m'en parlais à l'avant-match, tu me posais des questions sur les Blackhawks, puis je te disais, écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Keith Seabrook, honnêtement, tu n'es pas capable de les échanger. Si tu les rachètes, tu as ta masse salariale pendant une éternité.
Ouais.
Ils ont un énorme problème. Et je ne dis pas qu'ils sont sortis du bois, mais c'est drôle, tu fais une couple de transactions. Soudainement, tu as un gars comme DeBrincat que tu as repêché, qui est une superstar en devenir. On parle pas du fait que ce gars-là, il a 38 buts dans la Ligue nationale, parce qu'on parle de tous les autres. Mais ce gars-là, il est sur le point de marquer 40 buts à sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Tu es allé chercher Strome, tu es allé chercher des joueurs, tu as une bonne brigade défensive. En tout cas, tu as des jeunes qui s'en viennent, qui selon moi, font en sorte que, sais-tu quoi, ils ont peut-être fait exactement ce que les Bruins de Boston ont fait, c'est-à-dire quelques transactions, peut-être qu'ils vont avoir encore un petit peu de changement, des petites modifications à changer, mais sais-tu quoi, s'ils font pas les séries cette année, es-tu prêt à me gager 5 piastres présentement qui sont pas là l'année prochaine? Moi, je pense que Jeremy Colleton, c'est peut-être il est venu insuffler peut-être quelque chose de qui était intéressant pour les joueurs.
Entraîneur nouveau
on
genre.
On adorait ouais. Joel Quenneville, ouais, exactement, ouais. Le nouvel entraîneur de 32 ans, mais ouais. Il est venu amener une nouvelle énergie, ouais. Il a fait tout de suite croire et embarquer ses vétérans, il achète ce que lui vend, et là, soudainement, moi, je regarde les Blackhawks, je me dis, ben, crime. Cette équipe-là, s'ils rentrent en série, peut-être qu'ils gagnent une ronde, ils ont des chances. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant à quel point on a pu se retourner rapidement. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, puis j'ai eu le même réflexe avec mes collègues l'autre jour, écoute, pourquoi que le Canadien, on fait souvent des transactions, on va chercher des Nate Thompson et des joueurs comme ça, mais tu peux pas me dire que ça se fait pas des transactions. T'es capable d'aller chercher un Dylan Strome, et sans donner mère et monde non plus.
Donner Mitch Maltz.
Exactement. Alors, pour moi, je me dis, crime, c'est possible de faire des transactions pendant la saison qui sont bonnes, des transactions de hockey qui sont bonnes pour aujourd'hui, qui sont bonnes pour demain, puis dans plusieurs années à venir aussi. Oui. Les Bruins sont la preuve, les Blackhawks sont la preuve.
OK. Là, je voyais les trios à l'entraînement ce matin en prévision du match de demain. Puis, il y a de quoi qui m'agace là-dessus, Louis, puis je veux t'en parler ce soir, parce que je trouve, de toute façon, qu'on focus beaucoup trop sur le quatrième trio à Montréal, parce que le premier trio est un véritable deuxième trio, le deuxième est un troisième, puis le troisième, on n'est pas certain. Fait, si tout le monde était assis dans la bonne chaise, peut-être qu'on parlera un peu moins du quatrième. Fin de la parenthèse. Paul Byron, qui s'entraînait ce matin sur le quatrième trio, ce gars-là a trop de skills offensifs, excusez-moi l'expression skills, a trop de qualités offensives. Ce gars-là est rapide, ce gars-là est dédié à la cause du Canadien. C'est un game changer. En désavantage numérique, n'importe quand, il peut te marquer un but qui va te ramener dans le match. Pourquoi ce gars-là se retrouve au 18 mars sur le quatrième trio?
Parce que tu essaies de diversifier l'attaque, c'est ce qu'on va expliquer, parce que t'as trop de gars qui ne produisent pas, t'essaies de trouver une étincelle, une chimie, parce qu'elle est inexistante. Depuis un certain temps, depuis à peu près 3 semaines, le Canadien ne gagne à peu près pas, et non seulement ça, ils sont pas capables de marquer, c'est généralisé, c'est plus seulement l'avantage numérique, Dan, c'est non. Maintenant aussi 5 contre 5,
ouais,
c'est
raison.
Partout. Alors j'ai de la... Écoute, moi, tu sais, de commencer à clairement critiquer, dire, regarde le coach, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vois plus un coach qui n'a pas beaucoup de... Tu sais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la main, là. Alors, tu as beau essayer, tu peux dire, OK, Paul Byron, quatrième trio, qu'est-ce qu'il fait là? Mais en même temps, Paul Byron, sur une bonne équipe, il est troisième ou quatrième trio. Je veux dire, si je te dis Lightning de Tampa Bay, Paul Byron, il n'est pas ses 3 premiers trios,
je
m'excuse, là.
Je comprends, mais à Montréal, il pourrait avoir un rôle plus important, Louis.
Je suis d'accord, mais il y en a un important. Je veux dire, à leurs yeux, c'est pas comme si soudainement ce joueur-là n'est pas important, parce qu'il l'est. Il est extrêmement apprécié par l'équipe d'entraîneurs. Il fait partie du noyau de joueurs là, excessivement important autour de qui on veut bâtir, autour de qui on veut vraiment le groupe de leaders de l'équipe, évidemment, qui comprend un gars comme Shea Weber. Ben tu retrouves aussi un joueur comme Paul Byron. Alors, il est important, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, on dirait qu'on le voit moins percer la défensive adverse. On l'a vu un peu moins fougueux. Alors peut-être qu'on juge que si on le place là, on lui donne une chance de jouer contre des adversaires un peu moins coriaces, et lui, avec sa vitesse, devrait être capable d'en profiter. Le problème à ça, c'est que tu joues beaucoup moins de minutes, alors tu as moins de chance, des fois tu vas sauter ton tour et tout ça. Je comprends parfaitement la logique, mais pour moi, ultimement, tu parles du quatrième trio, ben le problème, c'est-tu le quatrième trio? Non. Le problème
gens.
Aussi, le sujet de discussion, c'est Kotkaniemi, qui n'a pas joué beaucoup en troisième. Écoute, excuse-moi, mais Kotkaniemi, on ne devrait pas trop avoir à parler de ce gars-là présentement.
Non,
mais si on en parle, ça expose quoi? Ça dit que tu n'as pas assez de bons gars.
Manque de profondeur.
Exactement. Et ton premier trio est peut-être un troisième trio ailleurs. Alors, si c'est ça ta réalité, ben ça donne quoi? Ça donne que quand ça compte vraiment les games, quand c'est très difficile, quand ça commence à chauffer, tu as une équipe qui malheureusement a de la difficulté à répondre et à aligner des victoires.
Mais tu sais, Louis, à l'époque où tu étais plus jeune, puis tu allais au dépanneur avec ton grand-père puis acheter des gratteux, tu avais la case cadeau boni.
Des Joe Louis.
OK? Des Joe Louis aussi, OK. Mais le gratteux, il y a toujours une case cadeau boni. OK? Tu grattes ça, puis c'est un bonus à ton gratteux. Mais Kotkaniemi cette année chez le Canadien, là, c'est le cadeau boni. Souviens-toi, au repêchage, il repêche Kotkaniemi, puis là, ils nous disent hey, « Soyez patient, il va être bon dans 3-4 ans. » OK, parfait. Il arrive au camp, il impressionne tout le monde. Tu vois que le jeune a des bonnes qualités, il est capable de jouer au hockey. Il tombe tout le temps quand il arrive dans le coin de la patinoire, mais tu dis au mois de novembre, il tombera plus. Là, finalement, il garde. Il fait bien. Moi, j'accepte pas qu'à la mi-mars, parce qu'il a été laissé de côté à San Jose dans le voyage dans l'Ouest, j'accepte pas que le Canadien qui s'enligne pour manquer les séries, il y ait une partielle d'explication ou de raison qui revienne sur le dos de Kotkaniemi, il ne mérite aucunement d'être ciblé pour les déboires du Canadien.
Et je suis à 1000% d'accord avec toi. À 2000% d'accord avec toi. Tu l'as expliqué parfaitement, mieux que j'aurais pu le faire. Je suis... Écoute, moi, de toute façon... Je pensais que c'était pas une bonne idée de toute façon de le garder. Est-ce qu'il m'a surpris? Oui. Est-ce qu'il a prouvé qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale? Oui. Est-ce qu'il a prouvé qu'il va être un excellent joueur? Absolument. Et là, c'est dommage parce que là, on se concentre sur le fait que l'équipe ne va pas bien. Et là, on cherche les bébites. Et une des bébites, on se dit, ben, c'est Kotkaniemi. Il produit pas. Soudainement, son temps d'utilisation est coupé et tout ça. Et sais-tu quoi? Si le monde regarde ça, je m'excuse, il regarde pas à bonne place. C'est pas sur un Kotkaniemi que tu devrais commencer à mettre le blâme. Tu devrais pas avoir à le critiquer, mais aucunement, parce que ce gars-là, il a devancé toutes les attentes. Non seulement ça, by the way, un des plus jeunes joueurs, le plus jeune joueur dans la Ligue nationale de hockey. Alors, tu as parfaitement raison là-dessus. Concentrons-nous sur les vétérans. Concentrons-nous sur les joueurs qui ont de l'expérience. Concentrons-nous sur les joueurs qu'on dit qui sont encore jeunes, mais à un moment donné, ils vont finir par apprendre. Mais vraiment, ça fait assez longtemps qu'ils sont dans la Ligue nationale de hockey, qui devraient avoir un plus grand impact actuellement. C'est là où le bas blesse, c'est là où tu gagnes, où tu perds des matchs. C'est pas raison que Kotkaniemi. Puis il y a un peu une incongruité dans le message. Si tu dis en début d'année, on le garde parce qu'il est meilleur que les autres, puis à la fin de l'année, tu le fais plus jouer, oui, le hockey a évolué, oui, tout le monde s'améliore, oui, les autres équipes, le hockey n'est pas pareil qu'au mois d'octobre et de novembre. Parfaitement d'accord. Mais maintenant, c'est parce que tu t'attendais pas à être là où tu es.
Non.
T'étais pas sûr que t'allais faire les séries. Alors tu disais, regardez le Nanan, là.
Ouais.
Votre troisième choix au total qu'on va dire qui va être extraordinaire, puis il y a eu un bon camp d'entraînement, puis il n'a fait que progresser entre le camp des recrues, le camp principal, le début de saison. Regardez-le comme il est extraordinaire. Ça démontre que toi, tu n'étais pas sûr que t'allais faire les séries. Sinon, si tu disais, on avait besoin de quelqu'un de plus fort que lui, parce que sincèrement, c'est prévisible de voir qu'un jeune de 18 ans, à un moment donné, va frapper un mur. Il le frappe à la fin de la saison actuellement, lui. Pour moi, ça démontre à quel point il y a une certaine inconstance dans le message ou dans ce qu'on voyait, ce qu'on attendait. Je comprends le Canadien. J'aurais probablement pris la même décision qu'eux autres dans les circonstances. Sincèrement, Marc Bergevin, Claude Julien ne savaient pas à quoi s'attendre de cette année.
Oui.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont connu une saison exceptionnelle. Le problème, c'est qu'au lieu, et on devrait regarder ça de façon très positive cette année malgré tout, mais là, on voit ce qui arrive en fin de saison et on pointe et on cherche les bébites.
Puis l'attente des partisans que leur club préféré fasse les séries, elle est juste humaine. On peut pas en vouloir aux partisans
d'être déçus
avec la saison que cette équipe-là a connue. Avant de te laisser, je veux t'entendre sur Jonathan Drouin, qui est la nouvelle cible des partisans et de tous ceux qui tentent d'expliquer pourquoi le Canadien gagne pas. Un seul point à ses 16 derniers matchs. On a vu de jeunes joueurs talentueux quitter prématurément Montréal dans les dernières années. Je pense à Mike Ribeiro, je pense à Galchenyuk, je pense à Pacioretty. Est-ce que Drouin est le prochain?
Pas demain, là. Il va pas, selon moi, tu ne l'échanges pas au repêchage, tu ne l'échanges pas cet été. Mais c'est du quoi? J'ai un pourcentage dans ma réponse que je me dis, il n'y a aucun doute que Marc Bergevin est déçu. Il n'y a aucun doute que Jeff Monson est déçu. Il n'y a aucun doute que Claude Julien, que l'organisation, elle est extrêmement déçue de voir que, tu sais, tout à l'heure, quand je faisais référence à les jeunes joueurs qui, à un moment donné, vont finir par apprendre et tout ça, évidemment, je vise et je parle de Jonathan Drouin. Maintenant, je ne veux pas dire que les insuccès récents, c'est strictement l'affaire de Jonathan Drouin. Mais à un moment donné, quand tu regardes les joueurs, puis toi, t'es fort, tu te rappelles des noms et tout ça. Mais quand tu regardes l'année de repêchage de Jonathan Drouin, c'est quoi? C'est 2013?
Oui.
Il y a eu des Barkov, il y a eu des Jones.
Ouais.
Voilà. Et il y a eu des très, très bons joueurs. Seth Jones aussi, qui est sorti quatrième au total. C'est tout devenu, ces joueurs-là, des joueurs, je dirais, d'impact, des joueurs qui ont eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Seth Jones, on parle de lui comme un gars qui va pas un jour, c'est une question de temps avant qu'il remporte un trophée Norris. Il est le défenseur le plus fiable, le plus important des Blue Jackets,
oui,
de Columbus.
Okay.
Quand est-ce que ça va arriver pour Jonathan Drouin? La question, c'est, je le sais pas, je me pose la question si ça va arriver à
exact.
Jonathan Drouin.
Exact.
C'est vraiment décevant, ça. Alors oui, c'est pas juste l'affaire d'un joueur. Il a démontré vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses, Jonathan. Mais à un moment donné, je pense que l'organisation commence à se poser la question. Mais là où je pense que c'est impossible de l'échanger présentement, c'est que tu as donné quand même Sergachev, oui, qui oublie les statistiques à Tampa, ce gars-là. Je parlais avec Julien Brisebois il n'y a pas longtemps. Il me disait, oui, il est nettement, oui, il est 10 fois meilleur qu'il l'était l'année passée. Oui. Alors, si tu veux l'échanger, c'est mieux d'aller chercher quelque chose, oui, de retour. Très, très, vraiment quelque chose de vraiment solide en retour. Alors, je m'imagine que ça, on va être encore patient avec lui, mais on a hâte à m'amener que, regarde, tu as tout le potentiel du monde. Mais qu'est-ce que ça va prendre pour que tu aies le déclic de... Puis c'est comme ça dans n'importe quoi. Le monde qui nous écoute, là, c'est la chose la plus difficile dans peu importe le domaine d'avoir une constance et une continuité.
Ce soir, les surprenants Coyotes de l'Arizona sur vos ondes contre la meilleure équipe de la Ligue, le Lightning de Tampa Bay. Un gros merci, Louis.
Merci, Dan. À lundi prochain.
Bonne soirée à toi. Louis Jean, animateur à TVA Sports.